Dégenrer l'émission pour déranger.
Un mercredi sur deux sur Radio Kaleidoscope 97 FM de 18h30 à 20h. Affirmer aujourd'hui que mon corps est un champ de bataille, plutôt que mon corps m'appartient, est sans doute un constat pessimiste, voire alarmiste. C'est surtout une façon de rendre visible une violence banalisée à l'encontre des femmes dans la société dite occidentale. De traduire une relation conflictuelle et quasi punitive que les femmes entretiennent de plus en plus et de plus en plus jeunes à leur corps, dans un contexte socioculturel qui martèle au quotidien un discours unique sur la féminité, la beauté, le bonheur. Véritable propagande économique et culturelle qui nous enserre chaque jour plus étroitement. Extrait du livre « Mon corps est un champ de bataille ».
Ben, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle émission de Dégenrer, ce soir avec Amélia et Inga et Hélène à la technique. Et pour l'émission d'aujourd'hui, notre sujet est le rapport au corps. En gros, quel rapport au corps en fait peuvent avoir à leur propre corps peuvent avoir les femmes dans la société dans laquelle on vit.
Ouais, effectivement, parce que notre société patriarcale, donc c'est-à-dire le système de domination des hommes sur les femmes. Eh ben, s'appuie justement sur la division en deux catégories, donc les hommes et les femmes. Et cette division, eh ben, elle s'appuie sur différentes choses, mais en premier lieu sur le corps, donc le physique, qui devrait être nettement différencié, et ça de manière visible au premier abord. Enfin, il y a comme une espèce d'évidence que... un corps de femme et un corps d'homme seraient nettement différents. Et ça, c'est encore plus dans les sociétés riches que dans les autres, que les femmes doivent avoir un corps plus différent que, enfin, différent de celui des hommes, c'est-à-dire plus petite, que leur corpulence comme leur développement musculaire doit être moindre. Et ceci, ça entraîne que les femmes étant, devant être plus petites et plus légères, l'idée aussi qu'elles doivent être plus faibles physiquement que les hommes.
Ouais, et ces différences au niveau du corps, que du coup, qui sont de fait existantes, elles sont toujours présentées en fait comme naturelles, sauf que là, il s'agit aussi bien d'une construction, puisque il y a tout un tas d'études en fait qui montrent que en fait en termes d'accès à la nourriture par exemple, et ben dès la naissance, les enfants qui soient d'après qui sont filles, enfin qu'elles sont filles ou qu'ils sont garçons, et ben sont pas nourris de la même manière et enfin ça se poursuit comme ça, c'est pas il s'agit bien en fait d'une différence construite et en fait ces différences elles existent dans toutes les cultures, même si après ça se manifeste pas forcément de la même manière, mais dans toutes les cultures il y a bien des hommes et des femmes avec des différenciations sur le corps et à cela s'ajoutent donc des normes de beauté qui dans notre société, enfin on va parler des sociétés occidentales, sont bien aussi là pour appuyer en fait ce devoir des femmes d'avoir un corps faible et plus petit, du coup par exemple c'est la minceur et tout ça.
C'est-à-dire que si en fait les individus identifiés à la naissance comme femelles ou mâles sont tous les deux construits pour avoir des corps appartenant à la catégorie homme ou femme, les interventions elles sont beaucoup plus directes sur le corps des femmes et beaucoup plus violentes. Enfin, c'est-à-dire que les normes de beauté ont toujours été beaucoup plus strictes pour les femmes, avec que leur corps est beaucoup plus régulé avec différentes interventions, que ça soit avec des objets ou justement la quantité de nourriture ou des accessoires qui vont restreindre, je sais pas, leur possibilité de se déplacer, comme je sais pas, porter des chaussures à talons, ou enfin différentes choses qui vont modeler le corps des femmes et qui vont imposer des normes de beauté très strictes, mais que ensuite on va considérer comme étant naturel.
Et les normes de beauté, en fait, ou tout ce jeu sur les apparences, ça, il y a aussi ça a aussi un autre effet, en fait, c'est le fait de construire, en fait, un rapport au corps comme un objet, en fait, dont l'importance première serait l'apparence, alors que le corps est aussi un moyen d'action et d'intervention sur le monde. Et donc, en fait, de définir à un moment donné le corps des femmes comme un objet qui doit être beau, et que c'est ça, en fait, son importance première, c'est aussi priver, en fait, les femmes d'un apprentissage et d'une conscience différente, en fait, de leur corps comme un outil aussi pour intervenir dans le monde.
Et là où ces normes de beauté, en fait, on peut voir leur côté le plus, on va dire, perfide ou implacable, c'est que justement, elles sont complètement intériorisées, parce que d'un côté, c'est des messages extérieurs de la société, mais que les femmes, justement, intériorisent tellement, et ça fait que, je pense que toutes dans notre histoire, même si du coup, ça a pu évoluer, on a eu ou on a un rapport conflictuel à notre corps, voire on le voit comme quelque chose de complètement étranger à nous, séparés, qui seraient différents nous, sur lesquels on a peu d'impact, ou qui est pas, je veux dire, quelque chose qui nous aide, qui fait partie de nous, mais un peu comme un ennemi. Et ça fait aussi un nombre assez incroyable de violences qu'on peut s'auto-imposer pour correspondre à ces normes, et qui créent aussi toutes ces violences, donc sur le corps des femmes, une culture de tolérance à l'égard des violences contre les femmes en général.
Et pour ça, parce que ces normes, et donc les violences, en fait, qu'elles amènent, ça existe plus ou moins depuis toujours. Et pour ça, on vous propose, en fait, d'écouter une sorte d'aperçu historique, en fait, de ces normes imposées aux femmes dans les sociétés occidentales, et ce qui concerne donc avant tout les femmes dans les classes sociales aisées. Parce que ça fait, c'est assez récent, disons, enfin, je sais pas, à peu près une cinquantaine d'années, je crois, que ça se popularise plus, que ces normes-là, en fait, commencent à avoir des effets ou
à s'imposer dans toutes les classes sociales, en fait.
Ouais. Et cette petite aperçu historique, en fait, c'est un extrait d'une émission de radio de Bruxelles qui s'appelle Le Canal du Fouet. Et on vous propose de l'écouter.
D'ornement à instrument, le corps de la femme à travers l'histoire a toujours été maîtrisé, façonné et modelé selon le rôle social qu'on lui dévoue.
La fragile est pure du Moyen-Âge. Cette époque privilégie la maigreur et cultive l'impression de fragilité qui s'en dégage. Les formes sont menues, délicates, les poitrines sont petite, les hanches effacées, la gorge menue, les bras et le cou sont longs. C'est l'époque de l'amour chevaleresque, où l'on se bat pour ces femmes si fragiles.
La majestueuse du XVIIe siècle. Bien que la silhouette des femmes soit lourde et plus opulente, on assiste au redressement du maintien. On apprécie les beautés majestueuses. Le corps est semblable à une armure, et maintenu par des baleines, des tiges de bois ou de joncs. Le corset se lasse devant, rejetant les épaules en arrière, afin de soléniser la posture. L'attitude rigide et morale du corps est importante, puisqu'à cette époque, les femmes exercent un certain pouvoir en tant que régentes.
La révolutionnaire du XVIIIe siècle, c'est l'apparition du modèle impressionniste. C'est une beauté en ligne douce, le corps est tendre, ferme, fluide et potelé. C'est un corps à fossettes qui rit dans sa chair blanche. Il est recouvert d'étoffes qui atteignent des diamètres de 3 à 4 mètres. Les robes sont encombrantes, lourdes. Elles resternent, limitent et paralysent la liberté de mouvement des femmes. La Révolution française vient changer la donne. Elle modifie la mode se dépouille, les lignes s'épurent, le style se dépouille. Là aussi les robes sont plus légères, c'est l'apparition du style grec. La taille est remontée et la poitrine est soutenue par une petite brassière.
la romantique du 19e siècle. On réintègre le corset, les paniers et les crinolines toujours aussi démesurément larges. Tout au long de ce siècle, la taille sera soit allongée, raccourcie ou contorsionnée. Le corset dessine une taille étroite entre les hanches gonflées par une crinoline. Il comprime le ventre et la taille, faisant ainsi saillir les seins. La taille des femmes ne sera jamais assez mince et l'on fabriquera un corset se lassant dans le dos afin d'obtenir une véritable taille de guêpe. Ces corsets compriment les organes internes, déforment la cage thoracique, provoquent des évanouissements, la respiration étant oppressée.
Le 19e siècle est le siècle qui développe les appareils mécaniques. La panoplie d'appareils mécaniques qui rectifie le modèle de corps de la femme se développe de plus en plus. On verra l'apparition de la Vénus de Milo, qui contient des seins en caoutchouc, palpitant moyen d'un ressort situé derrière la taille, jusqu'au faux cul, qui rembourre les graisses déjà présentes sur les fesses et qui fait de plus en plus penser au profil des volailles de basse-cour. Talons.
Talons aiguilles.
Semelles compensées.
Les talons empêchent de courir, tordent les chevilles, rendent extrêmement difficiles les longs déplacements et les déplacements avec bagages ou enfants, abordent les marches sur grillage et rebordent de faire des escaliers publics.
Jupe.
Jupe fendue.
Longue.
Mini.
Moulante. N'écarte pas les jambes.
Fais attention quand tu tombes.
Attention quand tu te penches.
Fais attention quand tu t'assois.
Fais pas ci.
Fais pas ça.
Les jupes, astucieuses pièces de vêtements, sortes de volants autour du sexe, fixées à la taille comme un abat-jour, ne protègent pas notre sexe et nous obligent à garder constamment l'attention portée sur cette partie de notre corps. Les jupes limitent la mobilité et maintiennent les femmes en état d'accessibilité sexuelle permanente.
Régime.
String.
Talons aiguilles.
Chirurgie esthétique.
Liposuction.
Soutien push-up.
Récile allonge-cils.
Faux ongles.
Collant ventre plat.
Sourire d'ambiance inaltérable.
Modèle poupée barbarie.
Voici un ensemble de signes, considérés comme mineurs par beaucoup et qui pourtant ne le sont pas. Tous ces mécanismes concourent à raidir, à handicaper, à mutiler le corps, tout en le réduisant à la passivité et en promouvant sa fragilité. Ces mécanismes expriment donc la dépendance des femmes, mais ils ne se contentent pas de l'exprimer. Ils sont également et d'abord des moyens techniques de maintenir la domination toujours présente au corps et donc à l'esprit de celles qui sont dominées, de ne pas leur permettre d'oublier ce qu'elles sont, plus de leur fournir à chaque instant un exercice pratique de maintien de l'état de dépendance.
Je suis une fanfreluche, un petit chien en peluche. Je suis une fleur en pot, je suis un bibelot. Je suis un bilboquet, rien qu'un petit joueur. Je suis la femme. Je ne pense pas avec ma tête qui sert à la décoration. Je n'ai pas d'âme, je suis comme une bête. D'abord j'ai les cheveux trop longs. Mes ongles c'est pas pour griffer, c'est pour y mettre du vernis. L'oreille c'est pas pour écouter. Pour les connaisseurs c'est un fruit. Je suis une confiture. Je suis une pâture. Je suis un liseron, je suis un édredon, je suis une poupée et je suis un gibier, je suis la femme. Si j'ai un nez, si j'ai deux pieds, comme si j'étais un être humain, c'est pour ne pas les orienter. Si j'ai deux yeux, si j'ai deux mains, c'est seulement pour faire illusion que l'homme soit pas dépaysé. C'est une bonne imitation. On pourrait presque s'y tromper. Je suis un accoudoir. Je suis un reposoir. Un monstre familier. Une puce dressée. poète prend à lire, tu pourrais presque dire qu'il ne me manque que la parole.
Vous êtes toujours sur Radio Kalidoscope avec l'émission Dégenrée et on vient d'écouter un morceau de Brigitte Fontaine qui s'appelle La côtelette, entre parenthèses, Je suis la femme. Et du coup, dans le cadre de notre émission sur notre rapport au corps en tant que femme, on a enregistré des témoignages dans le cadre d'une rencontre féministe. Et là, on va écouter des premiers témoignages qui parlent un peu de la pression à la féminité que l'on peut subir et du coup du rapport conflictuel avec notre corps qui en découle.
Moi, j'ai eu cette impression que... Bah que voilà, les jeux et les jeux de garçons, ça m'était interdit. Si je voulais être une fille, plus une enfant, plus un bébé, donc pour plus me faire traiter de bébé, que pour plaire aux garçons aussi, pour devenir un peu une adulte, une petite femme quoi, il fallait que j'arrête de courir, que j'arrête de me battre, de grimper aux arbres, de faire des jeux drôles, enfin des jeux rigolos quoi, et finalement j'ai arrêté tout ça. Et il y avait ce truc-là qu'il fallait que je m'habille en fille, que... Et en fait, c'était hyper bizarre parce que... Déjà, j'ai arrêté tout ça, et... Enfin, j'ai arrêté de jouer et tout. Donc ça, c'était hyper dramatique parce que... Du coup, mes seules... Enfin, à partir de la cinquième, mes seules activités avec mes copines, parce qu'on lisait les magazines, machin... Ok, podium et tout ça, c'était se pomponner, essayer de se pomponner, parler des garçons et faire du shopping. Ouais, parce qu'on regardait bien sûr les garçons et tout ce genre de trucs. Donc les filles, qu'est-ce qu'elles font? Elles font du shopping, c'est leur activité dans la vie. Mmh. Et à toutes se comparer.
D'accord. En fait, moi quand j'étais petite, juste tout le monde me prenait pour un garçon, tout le monde m'appelait Julien et tout ça jusqu'à j'ai 7-8 ans. Et moi j'étais hyper contente parce que ça m'allait bien, de toute façon je voulais pas être une fille. Pour moi c'était une erreur que je sois une fille, enfin j'étais un garçon et tout ça, et de toute façon je faisais tout quoi, enfin tout pour qu'on m'appelle Julien et tout le monde le faisait, enfin les trois quarts des gens le faisaient. Enfin quand j'ai changé d'école, enfin quand je suis arrivée, j'ai déménagé, je suis arrivée dans une nouvelle école, je sais pas, j'étais en CE2. Pendant un mois, les gens ils m'ont demandé si je m'appelais Julia ou Julien. Enfin, du coup, moi, ça m'allait bien jusqu'à 8-9 ans. Et après, je crois que c'est en arrivant au collège où, je crois que ça, il y a des trucs qui ont changé, où je me suis rendu compte que, de toute façon, j'étais une fille et que, voilà, donc maintenant, il fallait que je sois une vraie fille, quoi. Que vraiment, que j'arrête de... Et à chaque fois, c'était souvent des petites réflexions. Mais moi, comme du coup, je me prends un peu la tête là-dessus, ça me marquait vachement du style truc-là, et que moi, j'ai toujours détesté faire du shopping, parler de aller dans les magasins, ça ne me branchait pas pour acheter des vêtements, enfin, juste quand j'avais envie ou besoin d'un vêtement, enfin, et ben j'allais, et puis, enfin, 5 minutes, enfin, juste, je prenais pas, je voyais pas l'intérêt de prendre toute une après-midi ou quoi, enfin, pour moi, ça me saoulait trop. Les trucs de maquillage, pareil, mais... À un moment, je me suis un peu maquillée. Enfin, toujours. Et j'étais toujours dans ces efforts d'observer les filles, comment elles faisaient, comment elles se comportaient, comment. Pour faire pareil, quoi. Enfin, les filles que je voyais qui étaient assez féminines et tout ça, qui étaient vachement féminines. Et je me rappelle quand j'étais en terminale, et ben pendant presque toute l'année, je crois, presque à tous les cours, je regardais comment les filles étaient assises. Et je regardais comment elles se tenaient. Et j'essayais de faire comme elle, mais il y a des trucs où je me sentais pas bien, ou... Enfin, c'était pas... J'avais pas envie d'être comme ça, mais juste je me forçais à être les jambes croisées, ou des trucs comme ça, et... Ouais, des fois, me maquiller, ou même l'épilation des sourcils, ça a été... c'était dur, parce que, ouais, je m'épilais, donc ça, il y avait pas... J'avais moins de... Enfin... Ça me dérangeait pas. Et j'avais pas forcément de réflexion là-dessus et tout ça, mais le pire c'était. Parce qu'on m'a fait des réflexions, mais tu t'épiles pas les sourcils et tout. Enfin, moi j'ai mis vachement de temps à me rendre compte qu'il y avait des filles qui s'épilaient les sourcils. Et quand je m'en suis rendu compte, j'observais tout le temps les sourcils comme ça. J'étais... Et je me disais, oh, mais toutes les filles épilées sur cils, c'est fou, ça, je vais essayer. Et je sais, mais c'était horrible, quoi. Genre, je pleurais, j'éternuais, tout ça. Je me suis dit, non, mais je peux pas y arriver, c'est pas possible, et tout ça. Et je me suis forcée plusieurs fois.
Je pense que c'est vraiment à partir du collège, enfin, milieu du collège et du lycée que j'ai commencé vraiment me considérer comme un individu et tout, mais plus comme quelqu'un susceptible de plaire à d'autres personnes, en fait. Mais je m'en rends trop compte, c'est dingue. Toute mon adolescence, bah, je sais qu'à chaque fois que je sortais, je faisais vachement gaffe à comment j'allais être habillée, à tout ce que j'allais mettre, éventuellement me maquiller, ce que j'allais porter et tout, pour plaire aux autres. Et après, ça pouvait aussi passer dans mon comportement, comment j'allais me tenir, etc., et ce que j'allais dire. Et j'étais je suis constamment... Après, c'était aussi dans mes jeux de séduction. Je crois encore maintenant, surtout avec les garçons, je suis vachement dans un rapport de séduction. Enfin, vachement moins maintenant quand même, parce que j'ai eu une étape du lycée qui était assez, assez impressionnante. Enfin, je pense que je passais mon temps à essayer de plaire, quoi. Enfin, mais vraiment.
Et au niveau du poids ou quoi, moi j'en ai... j'en ai pas souffert parce que j'ai toujours été assez normée et tout ça. Mais à un moment, ma mère, elle est tellement obsédée par ça. Et vraiment, elle est hyper fine, voire maigre, elle est hyper sportive et tout ça. Et elle pense tout le temps à ah non, je mets pas trop d'huile parce que ça fait trop de gras, non, je fais pas ci, je fais pas ça. Tout le temps, elle est en train de penser à ça. Et que moi, à un moment, bah, à l'adolescence, tes hormones qui changent. Et à un moment, bah, peut-être tu prends. Voilà, même si. Moi, déjà, par rapport à ma mère, quoi, c'était. T'as un peu grossi parce que forcément tu grandis. Enfin, c'est le moment de la puberté. Et on mangera plus de ça. Enfin, genre la tartiflette ou des machins comme ça. Et moi, je faisais des. En cachette, je m'achetais plein de tablettes de chocolat, de paquets de biscuits, tout ça. Et je mangeais. Enfin, de manière boulimique, mais j'étais pas boulimique. Enfin, je le faisais genre une fois par semaine ou une fois par mois ou je sais pas quoi. Puis que du coup, je me mettais à complexer.
Moi, par rapport à la grosseur, etc., je sais que, en fait, jusqu'à mes 12 ans, je faisais vachement de sport, etc. Après, à partir de mes 12 ans, dans une sorte de rejet de l'éducation de mon père qui était vachement, qui était hyper sportif et qui du coup mettait vachement de pression par rapport au sport et tout ça, j'ai arrêté complètement le sport. Du coup, je me suis mis vachement à grossir, etc. Au début, puisque ça a mis du temps, justement, je relativisais vachement sur la grosseur, sur tout ça, en disant que c'était pas grave. Et en fait, je me suis rendu compte à partir de la quatrième que de plus en plus, je commençais à complexer. C'était vachement par rapport à des remarques qu'on commençait à me faire. Parce qu'en plus, je restais beaucoup avec des garçons, en fait. J'avais pas beaucoup de copines, j'ai jamais eu beaucoup de copines. Et du coup, c'était vachement l'image que mes copains garçons, pas mes petits copains, mais mes copains garçons me renvoyaient. Ce truc de ils me rappelaient constamment, ah t'as grossi, ah t'as un gros cul ou j'en sais rien. Et du coup, petit à petit, je me suis mis vachement à complexer sur mon physique, etc. Et pourtant, je continue à avoir toujours des petits copains, je sais pas, enfin hyper souvent et tout. Alors je me disais, bah, c'est bizarre. Enfin, pourtant, je plais vachement. Il y a un moment où après, j'ai commencé à vouloir, à vachement demander aux autres est-ce qu'ils me trouvaient grosse et tout. Il y a un moment où voilà, donc j'étais hyper complexée. Je me comparais constamment aux autres filles, etc. Et en fait, j'ai commencé à faire vachement attention à ce que je mangeais, à faire plus de sport, mais en fait, j'en faisais pas vraiment parce que j'aimais pas ça et tout. Et en fait, là aussi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la réaction de ma mère par rapport à ça, en fait, parce que. Et de mon père aussi, en fait, ouais. parce que ma mère, du coup, je m'attendais à ce qu'elle me, enfin, qu'elle me soutienne et qu'elle me dise que c'était, enfin, voilà, que c'était dans l'adolescence souvent une période où on prend du poids ou des choses comme ça, et puis même, enfin, que c'était pas grave, etc. Je m'attendais à ce qu'elle me dise ça, et pas du tout. Elle a eu une réaction hyper violente en me disant, enfin, oh, faudrait que t'arrêtes de manger, tu grossis trop, et en me disant fais attention et tout, du coup ça a rien arrangé, quoi. Ça m'a complètement angoissée sur ça, et carrément après, pendant des longues périodes, je m'empêchais grave de manger, mais vraiment, j'étais pas anorexique, mais je m'empêchais vachement de manger, je faisais hyper attention, et du coup je crois maintenant que j'étais hyper frustrée hyper souvent, parce que du coup je m'empêchais de manger alors que j'adorais ça. Et je mangeais plus de trucs sucrés et tout, et bah ouais, et en fait c'est vraiment ce truc qui m'a surpris, c'est la réaction de ma mère par rapport à ça.
Moi je me dis que depuis l'adolescence et puis encore maintenant, en fait devenir une femme pour moi c'était qu'on me désappropriait de moi-même, enfin vraiment quoi, ce truc là où je devenais avant tout un corps et fallait que je devienne avant tout un corps. Et que c'est un truc qu'on m'a, sur laquelle il y a eu vraiment énormément de pression, aussi bien du point de vue des médias, que des parents, que des petits copains, que de l'école, que de soi-disant assumer, enfin on dit assumer une féminité, alors que c'est construire une féminité, parce qu'on n'a pas assumé, il n'y a pas d'essence féminine qui sortirait de nulle part et qui ferait qu'on aura envie d'être jolie, quoi. Enfin, c'est dis oui, assume ta féminité, c'est même pas, on te laisse même pas le choix, tu peux, enfin. C'est soit tu l'assumes pas, alors là tu vas tomber voir un psychologue, parce que tu comprends, tu n'assumes pas ta féminité, donc tu nies une espèce d'essence qui sortirait de toi-même, qui voudrait que tu te fasses jolie et que tu sois désirable pour tous les garçons. Et en fait, enfin moi je me dis, mais c'est fou quoi, ce truc là de assumer sa féminité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il faut souffrir pour être belle.
On vient donc d'écouter quelques témoignages en fait sur les pressions à la féminité que peuvent subir les femmes, et il s'agit de témoignages individuels, mais d'une manière ou d'une autre, toutes les femmes dans nos sociétés subissent ces pressions-là, et même, je dirais, les femmes qui peuvent en fait correspondre plus que d'autres à ces normes de beauté, par exemple qui sont grandes, minces, pas blondes, qui ont des yeux bleus, je sais pas. Et ben même elles finalement, enfin elles subissent ces pressions là parce que déjà je pense elles vivent un peu avec la peur permanente que elles pourraient quand même grossir je sais pas, et même ça demande tout un entretien, enfin le pour justement maintenir cet état là et en tout cas elles subissent ce jugement, quoi. Enfin, c'est à un moment donné, c'est quand même ce fait d'être jugée pour, sur son apparence.
Et je sais pas, dans les témoignages, on voit qu'il y a une espèce de pression en fait qui s'accentue encore plus à la période de la puberté. Mais pourtant, déjà, je pense que les normes, elles sont quand même imposées aux petites filles, mais vraiment très très jeunes. Enfin, en tout cas, de leur apprendre que leur apparence est vraiment quelque chose de primordial chez elles. Et j'ai l'impression que si ça s'accentue à la puberté, c'est qu'il y a justement il serait censé avoir un passage entre le moment où on est considéré comme petite fille, enfant, et le moment où on serait censé devenir une femme, et du coup, ce qui signifie être sexuellement accessible, en fait, et sexuellement désirable, d'où une accentuation des normes de beauté. Et on remarque, en fait, que ça se fait maintenant de plus en plus jeune, enfin, qu'une érotisation du corps des filles de plus en plus tôt. Et je sais pas, même moi, ça m'a frappé par rapport même à ma génération de bosser maintenant avec des filles, je sais pas moi, de 7 ans qui commençaient déjà, par exemple, à se maquiller, à vouloir perdre du poids, à porter des chaussures à talons de plus en plus tôt, en fait. Et du coup, avant de reprendre avec un autre témoignage, cette fois-ci écrit, on va écouter un morceau de Miss Kittin qui s'appelle Professional Distortion.
Yeah. He's so stupid.
All the time I have to say hello, baby. I have to wake up every day. I have to write, I have to shout, I have to play records all night. I'm in a loop, I am the loop. I have to make a dress up, show up. I got the fave, I got the tricks, I have to put guests on the list. I have no right to complain, I have to pretend to pretend. I have to shine, I have to sign, I have to never trust you blind.
Extrait du livre « Mon corps est un champ de bataille ». Chapitre poil. Parallèlement à mon travail sur la grosseur, j'ai effectué un travail sur mes poils. Pour moi, les deux sont bien sûr liés, car ils touchent à l'acceptation et à l'amour de son corps, à l'estime de soi, à la déconstruction des normes imposées, à la place que je veux prendre dans la société. Mais être poilu, ce n'est pas non plus pareil à vivre qu'être grosse. Déjà, il y a comme un choix d'être poilu. Pas forcément d'être grosse. Et puis, la pression sociale sur la grosseur est quotidienne, présente tout le temps. Insultes, magazines, discours médicaux, etc. La pression à être glabre est moins présente, plus diffuse. Mais aussi, les filles grosses sont visibles, les filles poilues beaucoup moins. Partout on exhibe des corps de femmes glabres, alors que toutes les femmes sont poilues, mais la quasi-totalité se rase ou se cache. Au pire, certains, surtout français, parlent de ces Allemandes qui laissent leurs poils aux pattes. Une curiosité. Ce serait plus facile alors d'assumer sa pilosité ? Peut-être pas. Car comme c'est moins visible, ça n'existe pas non plus. Ce qui revient à la quasi-obligation de ne pas avoir de poils, puisque les filles n'ont pas l'alternative. Les rares exemples visibles sont ridiculisés. Bobonne portugaise ou vieille mémé folle. Bon. Ma compréhension de la vie jusqu'à 20 ans a été « les poils, comme le gras, c'est dégueu, répugnant ». Seules les monitrices babacool de colonies de vacances laissent leurs poils sous les bras, parce qu'elles étaient plus proches de la nature peut-être, ou bien inconscientes des normes de séduction en vigueur. Or, à un moment donné, la puberté étant passée par là, il a bien fallu que je fasse le constat suivant. J'avais plein de poils, beaucoup trop de poils. Alors, cire, crème, rasoir, pince à épiler, appareil de torture à ressort me sont passés sur le corps, de la tête aux pieds. Doigts de pied, une idée de ma sœur d'y enlever les poils. Jambes, bien sûr, maillot, pas trop quand même vu que justement je ne me mettais jamais en maillot, complexe de grosseur, bouton oblige. Mamelon, menton, sourcil, merci maman, sans oublier la décoloration de la moustache. Une bonne copine de terminale, avec qui j'échangeais mes expériences d'épilation, m'a conseillé de ne plus enlever mes poils aux jambes pendant quelques mois, afin de ralentir leur croissance vigoureuse. C'est ce que je fis. Quelle surprise ! Mes jambes étaient poilues, comme celles d'un garçon. Poilues de surcroît. Je ne reconnaissais pas mon corps. Quand je regardais mes jambes, j'avais l'impression de voir un homme. J'étais donc un monstre. En tout cas, je n'avais jamais vu de fille comme ça. C'est encore les rencontres avec le groupe non mixte et des filles féministes qui m'ont sauvé de cette triste vie d'épilation quasi quotidienne. Je n'étais pas encore prête à laisser mes poils, mais j'étais d'accord pour dire que c'est le sexisme qui nous fait avoir honte de nos poils et nous oblige à les retirer, que cette opération est inacceptable car douloureuse et sans fin, et qu'elle produit sur nous un manque de confiance et une insécurité permanente. Zut, machin ou machine vient de m'inviter à dormir chez elle ou lui. Je vais devoir enlever mon pantalon et je ne suis pas épilée depuis 2 jours. Va falloir encore ruser. D'accord aussi pour dire que c'est une énergie folle de perdu et qui ne m'en apportait pas beaucoup. Ça ne m'apportait même pas la satisfaction de me sentir dans la norme, vu que de toute façon, j'avais trop de poils pour paraître impeccable. C'était donc parti pour 6 années de travail sur mes poils. Première étape, mes aisselles. Pas si facile. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre quelque chose de capital pour moi. Ce ne sont pas les autres qui m'empêchent d'assumer. Ça paraît peut-être simpliste, mais avant d'avoir pu assumer un truc, ça m'a fait la même chose pour toute la suite de mes poils, mais aussi avec le lesbianisme, eh bien, j'en voulais vraiment aux autres. C'est comme si j'avais eu envie d'avoir de grandes discussions avec tout le monde, et lorsque j'aurais fait comprendre mes théories pilo-féministes à mes amis, mes collègues, mes élèves d'accordéon, mon entourage, ma famille, mon voisin de bus, et bien seulement alors je serai libre de porter mes touffes sous les bras. Ben, c'est pas comme ça en vrai. Je ne sais pas bien comment au final j'ai réussi à garder et à ne plus trop me soucier de mes poils sous les bras, mais lorsque ça n'a plus trop posé problème, j'ai compris une des plus grosses raisons de pourquoi ça en avait posé. Dans ma tête à moi, j'avais continué de trouver ça crade et pas positif un bout de temps. Bon, l'été d'après, 3 jours de camping avec copains poilus et copines imberbes, en suffit à me laisser aimer mes poils sur mes doigts de pied. En fait, je m'en faisais tout un plat, mais comme pour les aisselles, j'ai eu l'impression que tout le monde s'en fichait. Mais tout cela n'était rien. Le gros morceau de ces 6 dernières années, ça a été mon coming out poil aux jambes. J'ai rencontré de plus en plus de femmes qui avaient des poils aux jambes. Une révélation. En plus, je les trouvais chouettes ces filles. C'était donc compatible. Et les autres femmes avaient l'air de trouver ça très chouette aussi. Lors de mon premier séjour à la coordination lesbienne nationale, j'ai cru halluciner. Plusieurs filles qui se baladaient en short, comme si de rien n'était, avaient des jambes plus poilues que les miennes. Ça existait. J'ai eu honte ce jour-là d'avoir épimé mes jambes avant de venir. Depuis, je ne les ai plus jamais rasées. Sauf qu'il m'a fallu des années avant de pouvoir me balader en short partout où je veux. Ça veut dire que refuser d'enlever ses poils mais d'avoir honte de les montrer, c'est se mettre en pantalon quand il fait 40 degrés, ne pas se baigner avec les autres, sauf en bain de minuit, se sentir mal quand le médecin me demande de me mettre en culotte, etc. Mon coming out poils aux jambes a fonctionné par étapes. D'abord dans la rue, puis avec telle bande d'amis, puis avec la bande alterno, puis avec une autre bande, puis une autre, pour finir avec mes élèves d'accordéon. Et c'est tout frais. Personne ne m'a jamais fait une réflexion, à part ma mère, mais disons que ça a permis d'en discuter. Des regards en coin, intrigués, ça y en a. Surtout par des inconnus dans la rue, mais ça m'amuse. Quand je sens que je ne suis pas assez forte pour que ça ne me touche pas, je me protège en me disant intérieurement, à l'attention de la personne qui regarde, sur un ton mi-agressif, mi-ironique. « Ah, t'en peux plus, mon coco, hein. T'as jamais vu ça, dis-moi. C'est normal, ça fait toujours ça au début. » Bon, et avec ça, je croyais avoir fait le tour de la question de mes poils. C'était sans compter sur la pince à épiler qui me servait quotidiennement à enlever ce que je pensais être mes 5 poils au menton. Je me disais qu'avec les poils aux jambes, j'étais déjà au top des modèles de filles velues. Ce qui est archi faux, bien sûr, mais je me réfère aux filles que je connais ou que je croise. Et qu'arrêter d'enlever mes quelques poils au menton, c'est vrai que politiquement, ça serait bien, mais ce serait vraiment ridicule car il y en a trop peu. Bon, et puis, je ne m'en sentais pas capable. Lorsque je voyais de ces vieilles mémés au menton hérissé de poils blancs, je trouvais ça chouette, et je me disais que plus tard, je leur ressemblerais. Ah oui, plus tard, ça sera chouette. Sauf que très vite, je me suis dit, quand tu seras vieille et que tu t'en moqueras d'avoir des poils au menton, tu te retourneras sur ta vie et tu trouveras bien dommage d'en avoir eu honte. Et j'ai rencontré Jennifer Miller. C'est une femme qui porte la barbe. Il y a 3 ans d'abord, j'ai vu un documentaire sur cette femme que je trouve super. Elle y raconte sa barbe, sa force de vie, son rapport au corps. Ouah, très forte. À l'entendre, on regretterait presque de ne pas avoir une barbe comme elle. Ce documentaire m'a beaucoup marqué. Il y a 1 an, j'ai vu que ce documentaire était à nouveau programmé au Festival du film lesbien à Paris et que Jennifer Miller serait là en personne. J'ai sauté sur la réservation de la soirée. Le matin, avant de partir au festival, j'ai pris ma pince à épiler, je me suis regardé dans la glace, j'ai enlevé 2-3 poils qui sortaient à peine de la peau de mon menton et je me suis dit « C'est certainement les derniers que tu retires, cocotte. » Le soir, j'ai revu le documentaire sur Jennifer Miller, je l'ai trouvé encore plus fort, j'ai regardé fasciné Jennifer sans oser m'approcher, j'étais trop émerveillé. Depuis, je n'ai plus arraché un seul poil. Je pensais n'en avoir que quelques-uns. Quelle ne fut pas ma surprise, au bout de 2 jours à peine, de voir apparaître de chaque côté de mon menton 2 îlots de poils plutôt fournis. Je me suis expliqué ce fait en me disant que la pince à épiler arrachait avec chaque poil noir et dur beaucoup de petits duvets qui s'est petit à petit transformé en poils noirs et durs. Mais a-t-on besoin d'une explication? Là encore, personne ne m'a fait de réflexion désagréable. Aucune réflexion d'ailleurs. Même si j'aimerais bien parfois qu'on me pose des questions, qu'on exprime sa surprise, plutôt que de regarder du coin de l'œil, mal à l'aise, en pensant je ne sais quoi. Ce qui est nouveau pour moi dans le fait d'assumer cette barbichette, c'est déjà que je n'ai pas le choix de la dissimuler ou pas, contrairement aux poils sous les bras ou sur les jambes qui disparaissent sous un t-shirt ou un pantalon que je ne le sens pas. C'est forcément franc et direct. Du coup, ça m'oblige à être forte en continu. Mais aussi, je dirais que ça me rend forte en continu. L'autre nouveauté, c'est que dès le début, j'ai été fière de cette barbichette. Je trouve ça vraiment beau. J'ai eu l'occasion depuis de voir un film et des photos d'une femme portant le même genre de barbichette que moi et de croiser quelqu'une avec la même aussi. Ça me fascine, j'adore ça. Ce sentiment, je ne l'ai pas spontanément pour mes poils aux jambes, par exemple. Quand je les ai ressortis cet été, j'ai encore été légèrement mal à l'aise, même si je suis aussi fascinée par les autres filles qui ont du poil aux pattes. Quand je dois faire appel à ma force pour assumer ma barbichette dans des situations moins évidentes, je me dis que je participe au brouillage des genres. Et cette idée me plaît beaucoup. Quand dans la rue je me balade, l'été, avec un t-shirt un peu moulant, les regards que je croise sont souvent perturbés. À première vue, habits et poitrine me cataloguent dans la case femme. Mais ma barbichette me fait mettre aussitôt dans la case homme. Un moment de panique pour nos cerveaux qui aiment les catégories bien nettes. Et à mon avis, ces catégories sont à remettre en question. À une époque où je me sentais mal avec poils et bourrelets, je regardais avec envie et d'autres sentiments plus négatifs ces garçons et ces filles qui donnaient l'impression de ne pas penser à leur corps, d'être à l'aise avec, tout simplement. Maintenant que je suis plutôt à l'aise avec le mien, je ne le vis pas comme quelque chose auquel je ne pense pas, tout simple. Non, c'est toujours présent. Mais quelle énergie, quelle force ça me procure. Assumer un truc, pour moi on va dire, va bien au-delà que de gommer le négatif de ce truc non assumé. C'est du bonheur en retour, du plaisir, de la force. Jennifer Miller parle de fluidité aussi. Il y a eu peu de temps, j'ai eu 2 discussions avec 2 copines à quelques mois d'intervalle. L'une racontait son pénible rapport à la nourriture, elle est boulimique, L'autre m'expliquait comment elle se trouvait grosse et qu'il était hors de question pour elle de vouloir s'accepter comme telle. Elle voyait la solution à son problème dans l'aide apportée par son copain pour faire un régime de plus. J'ai écouté ces deux femmes, et parlé aussi, jusqu'à être submergée par la douleur que ça faisait remonter en moi. Je me suis effondrée en larmes avec une des amies, larmes que j'ai retenues comme je pouvais avec l'autre. Ces souffrances de femmes, ces violences que nous toutes nous infligeons, me sont restées à fleur de peau. Bon, j'ai écrit ce texte en automne 2003. C'est l'automne 2004 désormais, du temps a passé, des poils ont poussé. Mon rapport au corps a évolué. Il me semble que durant cette année, j'ai laissé tomber en partie ces notions de fierté, de force omniprésente, de revendication, d'envie de justification, ce besoin d'affirmation dans la force, dont j'ai eu besoin pendant une période de ma vie. J'ai pu toucher du doigt un état d'esprit plus serein, moins agressif. Un état où le vrai relâchement de la pression sur le corps ne s'est pas traduit par « Je suis fier d'avoir des poils et je peux te tenir la soirée avec un discours politique là-dessus et essayer de t'expliquer que moi je ne subis plus cette pression. » Mais peut-être par quelque chose qui est plus entré entre le « Je m'en fous de cette histoire de poils » et « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais des poils au menton. » Il y a encore un an, assumer volontairement me donnait de la force. Depuis, il y a des moments où je me sens très bien avec mes poils. Ce sont les moments où je n'y pense pas. Ça peut ne plus avoir d'importance, cette histoire de poils. Et si ça n'a pas d'importance, alors je peux les couper, n'est-ce pas? Il y a quelques mois, j'ai pris ma tondeuse et je l'ai passée sur mes jambes, mes aisselles, mon menton. J'avais mis un sabot de sorte qu'il me restait 9 mm de poils. C'est peu par rapport à ce que j'avais. Eh bien, ça m'a plu, et je me suis senti bien. C'est donc que ça avait une importance finalement cette histoire de poils. La suite, je ne la connais pas, mais j'imagine que ça peut être quelque chose de serein, fluide. Que je coupe ou que je laisse pousser mes poils, en fonction de ce qui me correspond. C'est ce qui va compter désormais, j'espère. Que mon corps ne soit plus mon champ de bataille.
Alors, dans le cadre de notre émission sur le rapport au corps des femmes et des normes de beauté qui en découlent, on vient d'écouter un morceau de ZX et Tom Cora qui s'appelle Stupid Competition et qui parle de la compétition entre les femmes par rapport justement à ces normes de qui est plus mince, plus belle, etc. et de la division que ça entraîne entre nous.
Et donc comme on a aussi vu un peu dans le témoignage sur les poils juste avant là, et ben il y a un peu pour l'idée pour sortir de cet enfermement dans les normes de beauté et dans un corps objet que en fait il y a ça passe aussi sur un travail sur soi pour développer entre autres, par exemple, une autre sensibilité, esthétique, comme elle explique qu'à un moment donné, et ben, elle commence à trouver ça beau, les poils sur les jambes ou sa barbichette. Et donc notre propre démarche féministe s'inscrit vraiment aussi dans une perspective de conscientiser un peu ces normes sociales construites pour pouvoir non pas arriver à quelque chose de plus naturel, mais pour, si c'est construit, ben on peut bien essayer de construire autre chose qui nous enferme moins. Et c'est dans ce sens aussi un peu que vont s'exprimer les prochains témoignages qu'on va passer, justement dans cette idée de à partir du moment où on essaye de développer un autre rapport au corps que à un corps objet, et ben qu'est-ce qu'on y trouve et comment, à quel point c'est aussi agréable, qu'on y découvre un rapport au corps qui nous permet un peu plus d'autonomie.
Ma mère, depuis quelques années, elle arrête pas de me dire que je prends pas soin de moi, que je prends pas soin de mon corps parce que je m'épile pas, parce que je m'habille n'importe comment, que je me lave pas assez, nanana. Et c'est hyper dur de lui faire entendre que j'ai jamais pris autant soin de moi. J'ai pas jamais pris autant soin de mon corps justement, mais par d'autres qui sont pas par les biais de crème de beauté ou quoi, mais par justement le biais de m'écouter plus et de faire plus attention à ce que je veux, ce que je veux pas. Mais pour elle, le fait de plus m'épiler, plus pas assez me laver tous les jours, pas je sais pas quoi, pas me maquiller, tout ça, et ben c'est un signe que je prends pas soin de mon corps. Enfin, c'est vraiment cette idée de. Je trouve ça. Ça m'énerve. Ça me met hors de moi, parce que pour moi, ça veut dire qu'elle comprend pas, quoi. Enfin, qu'elle me comprend pas, que je vais beaucoup mieux maintenant qu'il y a 5 ans, où peut-être j'étais vachement plus propre, épilée, nickel, mais pour autant, en dessous, c'est le gros bordel, quoi.
Pendant ce temps-là, juste c'est des moments où on réfléchit pas sur qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, dans le monde. Dire pour être une personne normale, plaire un minimum, passer inaperçu, il faut passer 1 à 2 heures. À se torturer, quoi, et à se calibrer, à se mimiter, je sais pas quoi, à se tailler les bouts, je sais pas quoi, enfin. Et dans un truc d'apparence, quoi, c'est pas 2 heures, 1 ou 2 heures à apprendre à respirer, à sentir son corps, à se faire des massages, à apprendre à s'en servir, à se muscler, à apprendre à se défendre, à apprendre à se valoriser, c'est pas du tout ça, quoi. C'est apprendre à se mettre dans une boîte, quoi.
Quand je me balade la nuit toute seule en ville, ce qui arrive des fois, je prends une allure. Je fais exprès de mettre un bonnet, de mettre une casquette, d'avoir les mains dans la poche, de cracher de temps en temps, d'avoir une démarche vachement masculine, d'avoir des trucs larges, ou même des fois de me bander les seins et tout ça, pour pas me faire agresser. Pour pas me faire agresser clairement. Et je le fais parce que je sais que c'est possible que je me fasse agresser. Et en même temps, j'aimerais bien trouver d'autres solutions. Par exemple, vraiment apprendre vraiment à me défendre, à me battre à fond.
Et quand je suis partie de chez ma mère, en fait, j'ai arrêté d'avoir des glaces chez moi. Et je pense que j'ai vachement retrouvé un rapport d'usage avec mon corps. Et pas d'arrêter de me demander à quoi je ressemblais. Et c'est hyper plus c'est vachement plus apaisant, quoi, et hyper plus agréable. Tout le monde m'a répété que j'étais faible, quoi, fragile, faible, et que mais ça n'empêche pas qu'on renvoie toujours
à des trucs d'apparence, enfin de coquille, quoi. Comme si mon corps c'était une coquille qu'on devait faire jolie.
Pour moi, le fait qu'on n'apprend pas aux femmes à utiliser leur force physique, qu'on n'apprend pas aux femmes à être actives, tu vois, à se penser elles-mêmes donc comme des corps passifs, à dire non, à respecter leur corps, à se battre, parce que, enfin, c'est pas, c'est, enfin, ça veut dire quelque chose qu'on apprenne quelque chose à la moitié de la population mais pas à l'autre moitié. Enfin, pour moi, c'est clairement qu'on continue à être dans un système qui favorise la domination des hommes sur les femmes, c'est-à-dire que on construit les femmes dans un être féminine, être dans la féminité, ça veut dire ne pas avoir construit de défense vis-à-vis d'une agression potentielle, quoi. Être passive, être fragile, ne pas savoir se battre, ne pas être forte, savoir se sacrifier, savoir souffrir. Et pour moi, c'est vachement là que... Ouais, que se développe... Que continue la domination masculine, quoi. Il y a le fait d'empêcher d'apprendre, en fait, parce que, enfin... Ouais, l'autonomie par son corps, pour les femmes, et ben c'est les maintenir... c'est les maintenir dans un truc de, je sais pas, de soumission, quoi, de fait.
Du coup, dans ces témoignages, on vient un peu d'entendre justement comme l'apparence, c'est le premier rôle qui est appris aux femmes auxquelles doit correspondre leur corps. Et que du coup, notre estime de nous, elle est vraiment directement liée à notre apparence physique, beaucoup plus que, je sais pas, d'autres choses comme notre intelligence ou nos capacités, je sais pas moi, sportives ou à jouer d'un instrument de musique ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'apparence qui prime. Et que ce rôle premier du corps des femmes... Eh ben, ça amène aussi qu'on se prive de plaisir que l'on pourrait ressentir avec notre corps ou de l'utilité qu'il pourrait nous apporter. Et par exemple, ça me faisait vraiment penser à une anecdote personnelle où, je sais pas, quand j'étais petite, je devais avoir 12 ans, je suis partie en colo. Et à l'époque, machin, je portais des lunettes et du coup, j'étais plutôt classée dans la catégorie moche. Et à un moment, j'ai enlevé mes lunettes et là, on m'a dit oh, « Mais en fait, t'es jolie sans tes lunettes !» Et du coup, pendant toute cette colo, j'ai pas porté mes lunettes alors que j'étais myope. Du coup, je voyais quasiment rien. Et normalement, on était censé faire des trucs bien comme, je sais pas, de la planche à voile, des jeux. Et moi, je pouvais rien faire vu qu'en fait, je voyais pas. Et j'étais tout le temps avec une de mes copines pour qu'elle me dise, je sais pas moi, pour m'aider à monter des marches, à pas me péter la gueule. Et ça a quand même duré une semaine. Mais pour moi, c'était plus important de... du coup d'être apprécié et surtout de rentrer dans la catégorie appréciée par les garçons plutôt que de pouvoir m'amuser, apprendre à faire des sports qui me plaisaient ou toutes les autres choses que j'aurais pu faire si j'avais vu quelque chose.
Mais c'est fou jusqu'où ça peut aller, quoi. Enfin, parce que, je sais pas, moi j'ai l'impression de, enfin, par exemple, de même dans des activités en fait de plus sportive ou des travaux ou des trucs comme ça, et ben j'ai tellement quand même intégré en fait cette pression à enfin, je sais pas si c'est la beauté mais en tout cas à l'apparence, que ça me traverse régulièrement même dans ces activités là la tête de à quoi ça ressemble visuellement, quoi. Alors que genre je vais j'en sais rien, je vais nager et à un moment donné, je vais me demander à quoi ça ressemble, alors qu'on s'en fout. Enfin, je veux dire, le but de cette activité, c'est pas d'être belle ou quoi, mais c'est d'avancer, enfin, de me déplacer dans l'eau. Alors, enfin, ça c'est vraiment, enfin, j'hallucine parfois sur moi-même à quel point c'est intégré, enfin, très profondément.
Ouais, mais c'est clair, ça me fait aussi penser, je sais pas, moi quand j'étais plus jeune, j'adorais me baigner, aller à la piscine, et je pense que pendant 10 ans, j'ai plus jamais été à la piscine. Quand j'étais avec des amis à la mer, j'allais pas me baigner, ou alors la nuit, juste parce que je me trouvais trop grosse et trop poilue. Et ça veut dire pendant 10 ans se priver d'un plaisir physique. Enfin, c'est vraiment de la torture qu'on s'inflige.
Ouais, en plus pour déconstruire en fait cette construction-là, quoi. Et ben c'est vraiment, enfin il faut vraiment prendre en compte toute la complexité en fait de cet apprentissage qu'on nous a imposé. Parce que moi quand j'étais ado, enfin je sais pas, je devais avoir ouais peut-être 9 ans aussi, un truc comme ça. Et ben en bas de l'immeuble où j'habitais, il y avait des garçons qui jouaient au foot tous les soirs, et moi j'avais envie de jouer avec eux. Mais vraiment c'était un truc, j'avais hyper envie, et ma mère en fait elle m'encourageait à y aller, mais ça suffisait pas, quoi. Je me sentais pas d'y aller parce que, enfin déjà il y aurait eu la réaction des garçons et tout ça, mais aussi je manquais de confiance en moi pour faire ce type d'activité, quoi. Et alors que j'avais un encouragement direct comme ça, mais je pense, et c'est vraiment ce truc de ne pas, ça suffit pas, il faut vraiment prendre en compte que c'est un système complexe et très complet. Enfin, qui intervient vraiment très tôt et dans tous les domaines de nos vies, quoi, qui fait qu'on n'apprend pas à avoir cette confiance-là, en fait, dans nous et dans ce rapport-là à notre corps.
Ouais, c'est ça. En fait, on apprend aux femmes à être des petits êtres fragiles, sensibles et juste jolis à l'œil. Et du coup, avant de continuer un peu sur un autre sujet, une autre partie de ce rapport au corps, on va écouter un morceau d'Annine Elias, qui est vraiment classe et qui parle justement de ça. En fait, c'est un morceau où elle critique tous ces films d'horreur, de suspense, etc. On voit tout le temps des femmes se mettre à hurler, s'évanouir, crier, s'enfuir. Elles sont là juste pour être décoratives et tomber dans les pommes dès que le méchant ou le monstre arrive. Évidemment, elles sont incapables de se défendre toutes seules. Il y a toujours le héros, l'homme, qui vient les sauver. Et donc, ce morceau s'appelle « You Suck ». Vous êtes toujours sur Radio Kalidoscope avec Dégenré. Et du coup, dans notre émission sur notre rapport au corps, Là, on a surtout, en fait, parlé du contrôle de notre physique en tant que femme, mais plutôt au niveau directement visible, comme notre apparence, notre tenue, notre silhouette, notre taille. Mais en fait, notre corps, il est aussi régulé à d'autres niveaux dont on parlera pas obligatoirement, comme par exemple la sexualité ou notre santé, nos comportements. Et aussi, un des aspects importants, c'est notre prise de l'espace, la manière dont on a de se mouvoir et de s'en servir.
Et par exemple... Par rapport à ça, moi, je sens vraiment une assez grande différence dans, par exemple, juste, il suffit de se balader, au centre-ville, les femmes et les hommes, ont pas du tout la même prise de l'espace. Par exemple, on va plus facilement voir des hommes qui vont s'interpeller dans la rue, marcher, vraiment en plein milieu du trottoir, alors que les femmes, elles vont plutôt se pousser. Mais même si c'est subtil, il faut y faire un peu attention, quoi. Ça saute pas à l'œil comme ça, parce qu'on a tellement l'habitude de le voir.
En fait, je pense qu'on s'en rend surtout compte quand, justement, on change d'attitude. Je sais, par exemple, ça m'arrive de marcher au beau milieu du trottoir et de me dire que je marcherai tout droit et je dévierai pas de ma trajectoire. Et là, s'il y a un mec en face qui arrive, à peu près immanquablement, on va se rentrer dedans ou se bousculer parce que lui considère que moi, je suis identifiée comme une fille, donc je devrais me pousser. Et du coup, il me rentre dedans parce que c'est pas habituel.
Alors, les filles, un nouveau jeu, quoi. Essayez.
Jouer du coude.
De rester au milieu du trottoir, quoi qu'il arrive.
Cette prise de l'espace, ou la manière justement dont on a de restreindre notre corps, de le refermer sur nous-mêmes, ça va avoir des impacts à différents niveaux. Par exemple, c'est comme le fait que on nous apprend toute petite quand même à pas parler trop fort, à pas trop parler. Alors c'est pareil avec ce truc que les filles seraient censées être plus bavardes, ce qui est pas vrai. Et ça, par exemple, ça va entraîner que quand une femme elle va vouloir prendre la parole en public, ça risque d'être plus compliqué parce que depuis toute petite, on lui a appris à ne pas parler fort et quand elle dit un truc, que ça aille vite. Donc, on se retrouve à parler tout faiblement avec un débit hyper précipité. Là, personne ne nous comprend. Et ça encore, c'est un truc à déconstruire, du coup, de prendre la parole en public.
De la même manière, en fait, il y a des sortes de petites manifestations, en fait, d'impatience physique ou en fait juste de l'occupation de l'espace ou par exemple le fait d'agiter, de taper avec les doigts sur une table, ça veut rien dire en fait, c'est pas vraiment une activité en soi, mais c'est juste une présence physique dans l'espace en fait et on peut l'observer vachement plus souvent chez des hommes, enfin moi je vois pas trop des femmes faire ce genre de truc. Et c'est pareil en fait, c'est vraiment aussi dans comment quelle conscience t'as de toi-même et à quel point cet espace public en fait il t'appartient ou pas, quoi, que tu peux y faire t'y manifester physiquement.
Et c'est aussi beaucoup lié au jeu pour les garçons et les filles qui sont différents des tout petits, enfin se dire que les jeux des filles ils vont avoir un espace beaucoup plus limité. D'ailleurs on leur interdit plus souvent de s'aventurer trop loin de leur immeuble, de chez elles. Et par exemple elles vont avoir des jeux qui prennent beaucoup moins d'espace, comme je sais pas moi, que ça soit une marelle, une corde à sauter ou jouer à l'élastique, enfin des jeux stéréotypes féminins, mais bon, qui sont toujours en vigueur, ça prend 4 mètres carrés. Alors que y a plein de jeux de petits garçons où eux, ils vont avoir des tonnes d'espace, et ça veut dire du coup explorer aussi les alentours, tester son corps, etc. C'est comme le fait de se bagarrer. C'est un truc qui est vraiment interdit. Aux filles, qu'on leur apprend pas. Alors que pour les garçons, du coup, c'est aussi un truc de se confronter, d'apprendre par ce corps à corps à se confronter les uns aux autres et dans un truc qui est égalitaire. Alors que que pour les filles d'emblée, elles sont pas censées être, elles ont pas ce genre de jeu de confrontation en fait.
Ouais, de corps à corps avec des des égaux potentiels. Et pour les filles aussi, enfin, elles apprennent aussi des contacts en fait rapprochés avec d'autres corps, mais ça va pas être, enfin, ça va plus être dans une asymétrie, et aussi ça va être plus des contacts qui se feront dans l'espace privé en fait, où c'est par exemple les filles vont apprendre très tôt à tenir un bébé, que ce soit par le biais des poupées ou de vrais bébés, à prendre soin, enfin pas, même pour les petites filles c'est peut-être pas prendre soin réellement des personnes, mais en fait à jouer à prendre soin de personnes, et c'est et donc en fait ce contact en fait avec d'autres corps, et il est pas comme pour les garçons, où à un moment donné c'est en fait une coordination entre deux corps pareils, enfin qui sont pas exactement pareils mais qui ont le même statut. Elles, c'est plutôt en fait, elles ont soit une responsabilité dans l'entretien ou le soin, ou soit en fait ça va être l'inverse, où c'est les filles fragiles qui, je sais pas, sont protégées par des hommes plus forts, quoi. Enfin, où du coup l'asymétrie, elle est, enfin c'est pareil, elle est présente.
Et du coup, par exemple, quand ça arrive beaucoup plus souvent, enfin dans l'espace public, par exemple, c'est, je sais pas, il y a des scènes qu'on peut voir régulièrement, comme je sais pas, quelqu'un est en panne et des hommes vont se coordonner, par exemple, pour pousser une voiture. Cette espèce de truc de se sentir à l'aise et entre égaux dans l'espace, alors que, par exemple, si c'est des trucs qu'on voit pas faire entre femmes, et je sais pas, moi-même, ça m'est déjà arrivé avec des copines, du coup, on voit des personnes en panne et on va les aider, et les gens, ils ont vraiment, finalement, ils acceptent, quoi, mais un espèce de truc de recul, genre, vous êtes des filles, c'est pas une tâche pour vous. Et il y a vraiment ce truc différent où aussi on nous apprend que la rue, c'est pas notre espace, et nous on se promène pas vraiment avec des personnes égales, mais on se promène plutôt au milieu de soit agresseurs potentiels, soit en tout cas avec toujours cette idée de notre apparence en tête, et qu'on va se faire juger sur cette apparence, et que pas que notre corps il pourra vraiment nous servir dans l'espace public.
Ouais, et même moi, à chaque fois, quand on est plusieurs filles à être vraiment une bande de filles, à prendre de l'espace, à rigoler entre nous, à bouger un peu, à pas faire tellement attention en fait à l'extérieur, et du coup, pas faire attention à pas gêner la trajectoire d'autres personnes ou des choses comme ça, et tout de suite on est visible en fait. Les gens ils nous voient, alors que ce même phénomène en fait avec une bande de d'hommes en fait, on est tellement habitué qu'on le voit pas, on le voit pas plus que ça. Enfin, à part peut-être les filles qui doivent traverser seules ces bandes de garçons, parce que je pense qu'on a quand même une vigilance là-dessus.
Là, en fait, notre émission arrive bientôt à sa fin, après la musique, on vous parlera un peu de diverses infos sur Grenoble ou les alentours. Et je sais pas, pour conclure, peut-être on voulait vous donner les références des livres à partir desquels on a travaillé.
Alors, y a tout d'abord le livre « Mon corps est un champ de bataille ». Qui est paru dans les éditions Ma Colère, que vous pouvez trouver dans certaines librairies et à l'info-kiosque des Quatre Sont Couverts, dont on vous parlera un peu plus après la musique. Et un autre texte duquel on s'est servi, c'est un article de Colette Guillaumin qui s'appelle « Le corps construit ». Qui est édité en brochure, donc pareil, qu'on peut trouver dans certains infokiosques, et qui est extrait en fait d'un recueil d'articles qui s'appelle Sexe, race et pratique du pouvoir.
Je voulais aussi dire en conclusion que Là, on a plutôt parlé des normes de beauté liées à la pression à la féminité, mais ces normes de beauté idéales pour les femmes, elles sont aussi racistes. Enfin, c'est qu'il y a aussi d'autres injonctions, comme le fait d'avoir un corps jeune, d'avoir un corps valide, d'avoir un corps blanc, etc. Et qu'il y a du coup d'autres formes d'oppression qui se croisent dans ces injonctions à l'idéal de beauté qui est imposé par les sociétés capitalistes occidentales. Et donc là, on va écouter un morceau de Robotnitchka qui s'appelle Disco Girls, Il était une fois dans l'Est.
Vous êtes sur Dégenré et c'est la fin de notre émission avec quelques infos et quelques dates sur Grenoble ces prochains jours. Alors la première info en fait malheureusement une histoire de répression. Alors le 15 janvier a eu lieu une manif contre une séance de prière des militantes anti-IVG à Grenoble et aussi pour revendiquer le droit à l'avortement libre et gratuit. Et à la fin de cette manifestation, une personne a été interpellée assez brutalement. Elle a été gardée quelques heures à l'hôtel de police où je pense qu'elle a été relâchée aussi parce qu'il y avait du soutien et des personnes qui se rassemblaient en protestation contre cette interpellation devant l'hôtel de police. Et en fait, les suites de cette interpellation, c'est que le 18 avril, la personne, elle était convoquée devant le délégué du procureur, ce qui est, ce qui va se multiplier là, en fait, parce que vu que les tribunaux sont un peu surchargés, et ben en fait, c'est une sorte de nouvelle formule où en gros, il y a un rendez-vous chez le délégué du procureur qui propose une sorte de médiation si on l'accepte. On n'aura pas de casier judiciaire, mais aussi on y va tout seul, il n'y a pas d'avocat, c'est quand même très très ambigu. Alors elle est accusée d'avoir lancé un liquide rouge sur des personnes et les parties civiles demandent entre 200 et 400 euros de dommages et intérêts. Elle a refusé de payer ces sommes-là et maintenant le dossier il est reparti chez le procureur qui va décider s'il va poursuivre la plainte ou pas, donc s'il y aura un procès ou pas. Et donc pour l'instant on n'en sait rien, on voulait juste en parler pour, voilà, quoi, pour rendre visible ce genre de choses qui, dont les médias officiels ne parlent pas trop. Et que ça nous semble important aussi de ne pas laisser seules des personnes face à la police ou à la justice, parce que la répression, elle touche souvent arbitrairement des individus, mais ce sont bien nos luttes dans leur ensemble qui sont visées. Et alors, on va passer à quelques dates sur Grenoble. Alors demain et en fait tous les jeudis de 16h à 20h, il y a les permanences de l'info-kiosque et du collectif Indie Média Grenoble dans la traverse des quatre fonds couverts, au chapitre Nôme. C'est donc quatre traverses des quatre fonds couverts de 16h à 20h. Et c'est là aussi où vous pouvez trouver beaucoup de brochures et livres féministes.
Oui, du coup, de l'info-shop dégenré. Et sinon, toujours au chapitre Nôme, le lundi 16 mai, à 18h, il y aura une écoute collective d'une émission que je pense qu'on a passée il y a un mois, qui est sur les femmes en Kanaki. Et cette écoute sera suivie d'une discussion. Donc ça sera un peu autour de la condition des femmes Kanak et de la construction des identités genrées en Kanaki, c'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie, donc une colonie française en voie d'indépendance, et aussi autour des liens avec notre propre réalité. Sinon, toujours au chapitre Nôme, le vendredi 20, eh ben, en lien direct avec le sujet de notre émission aujourd'hui, il y aura donc une soirée non mixte entre femmes et lesbiennes avec les auteurs de Mon corps est un champ de bataille. Donc on vous a lu quelques extraits aujourd'hui. C'est une soirée qui est organisée par Les Voix d'Elle, donc l'association des lesbiennes de Grenoble, et par le collectif féministe dégenré. Et à cette occasion, il y aura une expo donc réalisée par les auteurs du livre, une présentation, peut-être des lectures d'extraits et des discussions. Donc c'est à partir de 19h30, donc au chapitre Nôme, dans la traverse des 400 couverts.
Et alors, une autre date, le mercredi 18 mai à 8h30 au matin, il y a une invitation pour un petit déjeuner devant le palais de justice en soutien au squat des 400 couverts qui, à ce moment-là, est assigné par la mairie de Grenoble à, voilà, en référé pour une procédure d'expulsion. Et voilà, et c'est, c'est à partir de 8h30, il y aura du thé, des tartines, du café.
Et ouais, je pense que c'est important de venir. Enfin, là, du coup, on voulait aussi un peu vous parler de l'actualité par rapport au squat à Grenoble, parce que il y a un peu une répression qui s'intensifie avec. Ouais, voilà. En général, mais du coup aussi de nouvelles ouvertures. Donc, je pense, je sais pas si on vous avait vraiment reparlé. Enfin, il y avait déjà eu donc l'expulsion du squat non mixte féministe La Mordue il y a maintenant 2 mois, un truc comme ça. Il y a maintenant aussi c'est même plus des menaces. Donc, la mise en procès du squat des 400 couverts où. Ou je sais pas si Inga tu peux en dire un peu plus, mais quand même la mairie va assez loin dans le fait de vouloir donc détruire déjà un projet qui est un lieu de vie collective où habitent une vingtaine de personnes, plus des activités diverses qui ont lieu régulièrement et qui sont permis par aucun autre lieu à Grenoble. Donc voilà, ça, la mairie d'Estaut, ils en ont un peu rien à foutre. Et pour ça, dans l'accusation, par exemple, ils vont jusqu'à dire que faut une expulsion immédiate, sans délai, parce que ça ne serait pas un lieu d'habitation.
Et juste un lieu de business culturel. Alors qu'il a bel et bien une très bonne vingtaine de personnes qui habitent les lieux et que même ce lieu, il est pensé en... Enfin, la différenciation entre les activités et l'habitation, je pense, c'est pas... Enfin, ce cloisonnement, en fait, c'est ce qui est refusé, en fait, par les habitants, qu'il s'agit bien, en fait, de vivre aussi un projet de vie collective avec une certaine ouverture et avec des activités publiques, mais que le tout est lié, quoi, qu'on peut pas juste prendre une tranche de ce projet et le déplacer ailleurs. Et il y a eu aussi le 30 avril une manifestation, enfin une manifesta, donc une manifiesta, enfin bon.
Une manifestation festive.
en soutien en fait aux 400 couverts et c'était vraiment une déambulation festive avec beaucoup de jeux, avec beaucoup de couleurs, des ballons, de la musique et ça se voulait ludique et quand même un peu rentre-dedans mais pas avec des revendications claires mais c'était une prise de l'espace public d'une manière assez ludique et ça s'est assez bien passé jusqu'à la fin où ça s'est fini vers le musée de Grenoble et alors que tout le monde se reposait dans l'herbe, il faisait assez chaud et tout, et ben tout d'un coup, il y a cette on dirait personnage en bleu échappé d'un film d'action qui en surgit et ne pouvait pas s'empêcher d'arrêter des personnes parce qu'ils écrivaient à la terre sur une œuvre d'art. Donc il y a eu deux personnes qui ont été arrêtées et qui ont aussi une devant le délégué du procureur, dont une est déjà passée lundi dernier, et le deuxième, Sylvain, il va passer vendredi à 17h, donc aussi au palais de justice.
Et sinon, bah, toujours par rapport au squat, donc dimanche dernier, il y a... un grand projet d'habitation et d'activité qui s'était ouvert donc dans les bâtiments de l'Institut géographique
d'Institut géographique de géographie alpine, l'IGEA.
Ouais, de Grenoble, donc un bâtiment abandonné depuis un certain temps. Et du coup, ce squat qui réunissait pas mal de gens et de projets d'activités, dont des activités féministes non mixtes, s'est fait expulser complètement à l'arrache, sans procès, sans procédure, par les forces de police le lundi. Parce que voilà quoi, ils sont crus, enfin, ils se permettent sans problème du coup de ne pas respecter les quelques lois qui seraient censées plus ou moins protéger les squats ou au moins donner un peu de délai. Mais bon, les personnes se sont pas laissées abattre et donc suite à ça, on réouvert donc depuis vendredi un nouveau squat à la place d'un ancien hôtel désinfecté rue La Canale. Donc voilà, c'est le squat de La Canaille maintenant. Donc un squat qui appartient encore à la mairie de Grenoble qui de la même façon a réagi directement par la répression, donc après avoir menacé les habitants et habitantes de les virer l'après-midi même, ils ont fini quand même par envoyer un huissier, mais bon, donc c'est toujours la répression envers ces projets, donc c'est une affaire à suivre.
Et pour la suite, vous pouvez toujours aller voir sur Indymedia Grenoble, c'est grenoble.indymedia.org.
Et toujours pour nous écrire, vous pouvez le faire donc à dégenré avec deux e @boom.org.
Et on vous quitte avec une chanson pour justement, enfin, pour revenir un peu sur notre sujet, les filles et les corps des filles. Alors il y a aussi des filles qui font de la moto. Et c'est les 5, 6, 7, 8 avec Motorcycle Go Go Go. Au revoir.
Au revoir.